Radio Okapi.
Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité. 5 civils tués et d'autres grièvement blessés. Bilan des bombes larguées ce vendredi matin sur les camps des déplacés de Lushagala à l'ouest de la ville de Goma au nord Kivu par le M23. C'est en représailles aux attaques lancées sur leur position par les FARDC près de la cité de Sake. La RDC est les 123e sur 180 pays au classement de RSF pour 2024. Cette organisation fait remarquer que le pluralisme des médias est réel en RDC, mais le secteur est affecté au Nord Kivu par la guerre du M23. Notre invité, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Ingo Huber, affirme que son pays, le Canada, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne s'engagent à aider les journalistes congolais à produire une information libre, indépendante et pluraliste. Madame, messieurs, bonjour. Plusieurs personnes tuées et une dizaine d'autres grièvement blessées. Bilan des bombes présumées larguées par les rebelles du M23 ce vendredi matin sur un site de déplacés de Lushagala au quartier Mugunga à l'ouest de la ville de Goma au nord Kivu. Des coups de feu ont été entendus entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la zone. Le récit de Bernard Nenyangi.
C'était une forte émotion ce matin, sous le coup de 10h30, quand ces mortiers sont tombés sur le site de Lushagala, dans la zone appelée Witamsepak Kimashini, au quartier Mugunga. Certaines sources parlent d'au moins 8 personnes qui auraient perdu la vie sur le coup, alors que plusieurs autres déplacés auraient été blessés. Cet incident a suscité la colère des déplacés qui ont passé plusieurs mois dans ce site depuis leur arrivée en provenance de l'axe Sake-Chachaminova et sans assistance. La route Goma-Sake a immédiatement été barricadée par des déplacés en colère. Quelques éléments des forces de l'ordre sont intervenus par des tirs de sommation pour tenter de dégager la route. La tension est restée vive toute la matinée dans la zone. Depuis tout ce vendredi, un échange de tirs d'artillerie oppose l'armée congolaise aux rebelles M23 qui sont positionnés sur les collines surplombant Sake. Nos sources estiment que ces tirs seraient une réponse des rebelles aux tirs de l'armée. Deux mortiers sont tombés dans le site des déplacés et au même moment, un autre a explosé dans le quartier Lac Vert. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En réaction à cette situation, le bilan dressé par le porte-parole de la 34e région militaire fait état de 5 civils tués. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko affirme que les rebelles du M23 ont agi en représailles après des attaques lancées ce matin dans leur position sur les collines surplombant la cité de Sake. Les propos ont été recueillis par Bernard Nenyangi.
Tôt ce matin du 3 mai 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des offensives contre les positions de l'armée rwandaise et ses alliés du M23 en profondeur de Sake. Ces offensives ont permis la destruction du dépôt d'armement et munitions de l'ennemi. En représailles, le M23-RDF vient de cibler le camp des déplacés de Mugunga, qui est un objectif civil, causant ainsi la mort de 5 personnes, en particulier les enfants qui jouaient dans la cour. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement.
Des sources indépendantes parlent d'au moins 8 à 13 morts et une dizaine de blessés dans ces bombardements de ce vendredi matin. Sur leur compte X, les rebelles du M23 nient toute responsabilité. 123e sur 180 pays, c'est le classement de la RDC dans le rapport de 2024 de Reporters sans frontières publié ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Le pluralisme des médias est réel, mais dans la province du Nord Kivu, le secteur est fortement affecté par le conflit entre le FARDC et les rebelles du M23, note le rapport de RSF. Explication de Gisèle Cage.
Dans ses rapports, Reporters sans frontières indique que les arrestations, les agressions, les menaces,
les disparitions forcées, exécutions, les médias suspendus, pillés ou saccagés sont monnaie courante. La sécurité des journalistes est mise à rude épreuve en RDC. Les forces de sécurité sont impliquées dans nombre d'exactions et bénéficient d'une impunité totale, souligne RSF. Les journalistes sont menacés par une vague de pression et de représailles depuis 2023, malgré les cessez-le-feu au Nord Kivu. La démobilisation des forces armées par voie de presse en temps de guerre est passible de la peine de mort. Durant les périodes électorales, les professionnels des médias sont victimes d'agressions et de menaces de la part d'acteurs politiques ou de leur soutien, révèle le rapport. Les journalistes et médias congolais vivent dans une très grande précarité. Les contrats de travail sont rares et la pratique du coupage, qui consiste à obtenir une rémunération en échange de la couverture d'un événement ou de la diffusion d'une information, est très répandue. L'aide à la presse prévue par la loi n'a jamais été distribuée de manière transparente. Très peu de médias sont viables et indépendants et la plupart sont soumis à l'influence de leurs promoteurs, conclut le rapport.
Notez que ce papier de Gisèle Cage a été rendu par Murphy Fika. Nord Kivu encore, le gouverneur appelle les professionnels des médias à s'adapter à l'état de siège en cours dans cette province. Appel lancé à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée qui intervient dans un contexte de guerre. Les propos du général Peter Chirimwami ont été recueillis par Bernardine Diambou.
Je tiens à saluer le caractère héroïque et la résilience dont vous faites montre dans l'exercice de la profession qui implique un certain niveau de conditionnement d'aisance. Et vous le savez, je suis sensible à ça. L'encadrement des journalistes est placé au sein de nos services de communication, une manière de matérialiser en outre le contenu même du thème retenu en province en cette journée commémorative. Pour cette cause, je vous garantis une pleine collaboration par l'échange d'informations afin de permettre le droit d'information, le droit à l'information, afin de barrer la route aux velléités qui vous guettent, celle de servir les causes de l'ennemi. Je vous dis que nos portes vous seront toujours ouvertes pour l'accès à l'information. Une manière pour nous de vous garantir l'exercice libre de votre profession.
L'actualité politique à présent. Jean-Jacques Pourroussi a été élu gouverneur de la province du Sud Kivu au second tour. C'était hier à Bukavu. Son vice-gouverneur, c'est Jean-Jacques Elakano. Ils ont tous deux obtenu 27 voix sur 48 contre leur rival qui a obtenu 21 voix. Une analyse faite à Bukavu par Jean Kassami.
La province du Sud Kivu a attendu 72 heures pour obtenir le résultat de l'élection de son gouverneur. Le scrutin s'est joué en deux tours. Les 48 députés se sont mobilisés pour départager les deux candidats classés en tête de liste, mais dont personne n'a obtenu la majorité absolue. C'est ainsi qu'au deuxième tour, 27 députés provinciaux ont porté leur choix en la personne du candidat Jean-Jacques Pourroussi de la FDCA, élu provisoirement gouverneur et comme vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. Les 21 autres députés ont opté pour Soumaïl Misega, candidat de l'UNC. Les journalistes et autres observateurs présents dans la salle où se sont déroulés les scrutins apprécient la transparence dont la CENI a fait preuve. Le calendrier électoral de la CENI prévoit que le nouveau gouverneur entre en fonction le 28 mai prochain. En attendant, la gestion de la province du Sud Kivu est assurée par le vice-gouverneur Fisto Malago, son titulaire Théon Gwabidje étant devenu député national élu du territoire insulaire d'Idjoui. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Et dans l'Équateur, les élections des sénateurs et des gouverneurs sont prévues le 7 mai prochain. Mais la campagne électorale prévue ce vendredi devient hypothétique suite à une cacophonie qui règne en ce moment à l'Assemblée provinciale où deux camps politiques se disputent le bureau définitif. La réunion qui était convoquée hier jeudi par le directeur administratif de l'Assemblée provinciale n'a pas abouti. En Banaka, la correspondance de Paul-Richard Malengela.
Malgré l'agitation des députés provinciaux avec leurs partisans, 20 élus sur 21 ont eu accès à l'enceinte de l'Assemblée, professionnellement encadrée par la police. Mais pendant plus de 4 heures de tractation, le directeur administratif qui a convoqué la plénière n'a pu ouvrir la salle de plénière ni livrer son message. Monsieur Mola.
Il y a une résistance de part et d'autre. Il n'y a pas moyen d'évoluer, je suis bloqué.
Selon le député membre du camp dit souvent l'Équateur, tout est suspendu à la suite que le VPM de l'Intérieur réserve à la pétition de désaveu du bureau provisoire, mais aussi à son autorisation écrite de la tenue de cette réunion.
L'administratif est bloqué parce qu'il n'a pas un subventionnement. Pour casser le bureau, il doit être couvert. Par conséquent, nous attendons les documents qui émanent du VPM lui autorisant de venir organiser une plénière.
Cependant, les candidats de la majorité reconnaissent au directeur administratif ses droits en vertu de la pétition que ce groupe lui a adressée la veille.
Il n'a pas à avoir l'autorisation de qui que ce soit lorsqu'il y a une crise ou situation exceptionnelle au sein de l'Assemblée. On ne peut pas paralyser les institutions provinciales à cause des caprices des uns ou des autres. Il y a deux pétitions. Pétition de désaveu à l'intention du VPM. Mais la deuxième, lui adressée en tant que directeur administratif de l'Assemblée.
Bon, d'accord. Prochain Malingué, la radio Okapi.
Et puis, quelques candidats non élus l'année dernière, 2023, s'élancent actuellement dans un activisme politique en dehors de l'hémicycle pour pouvoir contribuer à l'avènement d'un Congo uni, démocratique, espoir et prospère. C'est ce qui justifie la création de l'Alliance des défenseurs extra-parlementaires du peuple. C'est confiant à la presse. Son coordonnateur affirme à Radio Capi que cette plateforme veut ainsi servir de pont entre les institutions et la population. Aaron Kaloua, l'édit à Grâce à Mouzati.
L'ATEP, c'est une plateforme regroupant les candidats non élus aux dernières élections, ou encore non proclamés, parce que parler des non élus, c'est-à-dire qu'ils n'ont reçu aucune voix. Lorsque nous parlons des candidats non proclamés, c'est par rapport à certaines réalités de la loi électorale. Alors ces derniers, ils ont battu campagne, ils ont travaillé, et la base leur a accordé cette chance. La base a compris que ces gens ont une vision pour ces pays. Alors malgré que la CENI ne nous a pas proclamé, on nous sommes dit nous devons continuer à travailler pour cette dernière. Raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble, comme vous pouvez déjà le remarquer, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur, où les candidats de toutes les formations politiques membres de l'Union sacrée se sont réunis pour parvenir à faire valoir ce travail. Mais aussi être ces ponts entre les institutions légalement établies et la base, où sorte la population, qui est en train de croupir dans les misères qui ne dit pas son nom, par des politiciens avérés, des politiciens qui n'ont pas le temps de raisonner sur la population, mais qui ne sont là que pour leurs propres intérêts.
Aaron Kaloua, qui est le coordonnateur de cette coalition plateforme qui veut servir de pont entre les institutions et la population congolaise, a été interrogé par Grâce Mvuezolo. Notez que c'est au cours de cette activité d'hier que les hauts cadres de cette plateforme ont été également installés officiellement. Les jeunes filles de la ville de Lubumbashi, regroupées dans la structure dénommée U-Report Filles, en session de restitution de la formation sur l'environnement et la citoyenneté. Cette activité a eu lieu hier après-midi à l'UNICEF. Reportage à Lubumbashi de Vanessa Kongolo.
Assurer une formation continue des filles sur les questions de la vie pour produire des grandes femmes de demain, c'est le grand objectif de l'UNICEF à travers You Report Filles. L'avenir passe par un bon apprentissage. Mère Deli Meta nous parle de ce qu'elle a retenu de la séance du jour.
J'ai retenu pleinement des choses qui m'ont été tellement nécessaires par rapport à la gestion des déchets, la très bonne gestion des déchets, et aussi la bonne utilisation de l'eau. On nous a parlé de la citoyenneté, connaître ses droits et ses devoirs qu'on a envers notre patrie.
Déborah Moussouamba est parmi celles qui suivent la formation en continu après les forums de jeunes filles organisés en 2022 à Kinshasa. Elle est fière de partager son savoir avec les autres.
Nous avons restitué sur la citoyenneté et l'environnement. On parle souvent de sujets qui sont un peu pertinents, leadership et tout, mais on a tendance à oublier la citoyenneté. On a tendance à oublier l'engagement civique d'un citoyen, que c'est important pour nous jeunes. On a aussi parlé de l'environnement. L'environnement ou être responsable de l'utilisation responsable de l'environnement.
Dans le cadre du programme de mentorat, les You Report Filles suivent la formation chaque samedi de la semaine. Lubumbashi, Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le phénomène des enfants de la rue reste actuellement un véritable casse-tête en République centrafricaine. Dans ce pays, quelques 6000 enfants sont actuellement livrés à eux-mêmes dans les rues, dont la moitié à Bangui, la capitale. Forcés à se débrouiller, qui mieux par eux-mêmes pour de nombreuses raisons, ils sont régulièrement accusés de tous les maux, drogue, vols divers et vandalisme contre des biens privés. Et puis l'Allemagne est régulièrement victime d'espionnage, comme en témoignent actuellement des récentes arrestations des personnes qui travaillaient pour les services secrets russes et chinois. Plusieurs cyberattaques ont également frappé Berlin, comme en 2015 contre le Parlement qui avait dû être coupé du monde durant plusieurs jours. En 2023, c'est le Parti social-démocrate qui était victime d'une telle opération. Depuis l'Australie où elle séjourne, la ministre des Affaires étrangères a accusé le gouvernement russe et dénoncé en même temps de telles pratiques.
L'invité.
Notre invité, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo, Ingo Heber, affirme que la coalition de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Canada et de la Grande-Bretagne s'engage à aider les journalistes congolais à produire une information libre, indépendante et pluraliste. Il s'entretient avec Michel Kifinangoy.
Monsieur Ingo Heber, bonjour.
Bonjour.
Nous célébrons aujourd'hui la journée de la liberté de la presse. Avec votre expérience en RDC, quelle perception faites-vous de la liberté de la presse en République démocratique du Congo?
Premièrement, on fait deux choses. C'est le jour de la liberté de presse, mais c'est aussi 5 ans de la coalition pour la liberté des médias. C'est une coalition de 50 pays et aussi des membres de la société civile et avec l'Estonie. L'Allemagne a au moment la présidence et c'était la raison pour laquelle on a, avec une réception, célébré ces 5 ans et le jour international de la libre presse. Comme je soulignais dans mon discours, pour une démocratie, la presse joue un rôle important. On dit très souvent 4e puissance après le gouvernement, le parlement, la justice. Ça veut dire aussi, dans notre temps, pour la presse, il faut avoir des conditions favorables, l'accès à l'information, aussi des conditions de travail sans menace. Et dans le temps des réseaux sociaux, aussi la presse joue un rôle important pour diffuser des informations sérieuses.
Alors la coalition pour la liberté de la presse que vous dirigez, parce que c'est maintenant l'Allemagne qui assure la présidence ensemble avec la Lettonie, qu'est-ce que vous avez observé comme problème pendant qui empêche la liberté de la presse d'être réellement effective en République démocratique du Congo?
On est, comme coalition, engagé pour promouvoir la liberté, mais ça veut dire également dans les pays où la liberté de presse, des médias est en danger, on s'engage. Et je vous donne un exemple. Dans le cas de Stanis Bujakera, on a suivi comme coalition, les procès, et on a fait, par exemple, une déclaration où on a exprimé notre souhait pour la liberté de presse, de respecter la liberté de presse. En plus, comme coalition, dans beaucoup de pays où les journalistes sont menacés, on a des programmes pour les aider, même dans des pays avec des graves violations de la liberté de presse, avec des programmes de protection. Ça veut dire en réalité de donner même aux journalistes la possibilité de séjourner dans les pays de la coalition, de donner l'exil aux journalistes dans nos pays.
Donc très concrètement, en République démocratique du Congo, vous avez mis en place des projets pour protéger les journalistes afin d'encourager la liberté de la presse.
Comme j'ai déjà constaté dans les derniers mois, c'était particulièrement le cas de Stanislas Bujakera qu'on a suivi, où on a fait une déclaration pour le respect de la liberté de presse. C'est ça, la coalition est plutôt un instrument de sensibilisation et de suivre le développement dans un pays, dans un cas où un journaliste est vraiment menacé, d'offrir un soutien très concret.
Alors la toute dernière question, quel conseil donnez-vous aux journalistes congolais notamment et quelles recommandations formulez-vous auprès des autorités congolaises pour que la liberté de la presse ne souffre pas en République démocratique du Congo?
Premièrement, j'aimerais bien exprimer mon appréciation pour les journalistes qui s'engagent encore pour un journalisme sérieux dans le temps des réseaux sociaux et qui sont avec beaucoup de courage, j'aimerais bien avouer, et avec un certain idéalisme, essayer de garder un niveau d'un journalisme indépendant en RDC.
Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie.
Merci à vous. Bonne chance.
C'était l'invité de Radio Okapi, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Ingo Herbert, interrogé à Kinshasa par Michel Kifindangoy. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Alain Rungu-Mushinji qui m'a accompagné.